Le débat du jour. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Depuis les attentats terroristes de 2015, la Tunisie vit sous état d'urgence. Alors nous saurons demain s'il est prolongé une nouvelle fois. Cet état d'urgence, en tout cas, autorise une politique sécuritaire et c'est utile pour le gouvernement dans un pays dont les problèmes économiques et sociaux provoquent des manifestations de colère. La démocratie tunisienne peut-elle dépasser cet état d'urgence, apporter des solutions qui permettraient à l'économie de retrouver de la vigueur, à sa population, à sa jeunesse, de retrouver foi en l'avenir? La Tunisie, donc, a-t-elle encore besoin de l'état d'urgence? On en parle avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Belir Nabli est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de « L'État, droit et politique » chez Armand Collin. Bonsoir à vous, Belir Nabli.
Bonsoir.
Nabli, pardon. Et Sophie Bessis est historienne, franco-tunisienne, auteur d'une histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours. C'est à paraître le mois prochain, m'a-t-on dit, aux éditions Talendier. Bonsoir Sophie Bessis.
Bonsoir.
Et merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Peut-être qu'on pourrait commencer cette conversation en rappelant pourquoi l'état d'urgence est en vigueur en ce moment et cela depuis 2015. Vous voulez le faire, Sophie Bessis?
Non, il est en vigueur, évidemment, depuis que la menace terroriste s'est précisée en Tunisie. 2015 a été une année où il y a eu des attentats extrêmement graves. Donc, c'est la raison pour laquelle, disons, officiellement, l'état d'urgence n'a pas été instauré pour des raisons économiques ou politiques, mais pour des raisons relatives à la montée de la menace terroriste dans le pays. Donc, effectivement, demain, on va savoir si l'état d'urgence est prolongé ou pas. Il n'est pas totalement impossible qu'il soit prolongé, à mon sens, pour deux raisons principales. D'abord, parce que la menace terroriste n'est pas éliminée, hier, il y a eu une bataille rangée entre un commando djihadiste dans la région de Sidi Bouzid et les forces de l'ordre, qui s'est soldée par cinq djihadistes morts, dont deux se sont fait exploser, et un officier blessé. Deuxièmement, et cela réveille de très mauvais souvenirs en Tunisie, c'est l'annonce d'une grève générale de la fonction publique le 17 janvier prochain. Et on a toujours peur en Tunisie. Bon, la dernière s'est déroulée dans le calme, en novembre dernier. Mais en Tunisie, ça réveille toujours des mauvais souvenirs, une grève générale. Et il n'est pas impossible que le pouvoir cède à la tentation de maintenir l'état d'urgence pour faire face au débordement éventuel qui pourrait accompagner cette grève générale dont il semble que pour l'instant le syndicat, à laquelle pour l'instant le syndicat ne semble pas vouloir sursoir.
Alors, deux questions à Belir Nabli. Est-ce que les autorités, selon vous, envisagent de lever cet état d'urgence demain? Et deuxième question, est-ce que l'insécurité justifie cet état d'urgence?
Alors, d'un côté, effectivement, a priori, les autorités, le pouvoir exécutif en particulier, envisageraient la prolongation de l'état d'urgence de moins d'un mois. Non, on est dans un prolongement en série depuis la mi-2015 et cette année extrêmement dure pour les forces de sécurité tunisiennes et pour la société civile elle-même, puisque la Tunisie a vécu au moins trois grandes attaques terroristes, même si, il faut le rappeler, d'un point de vue stratégique, c'était moins la société civile tunisienne qui était visée que les touristes étrangers et les forces de sécurité. Je parlais de cibles stratégiques parce que précisément les djihadistes avaient tenté par là finalement d'opérer ou de procéder à une différenciation entre finalement le peuple tunisien et de l'autre finalement des symboles ou bien de l'ennemi extérieur ou de l'ennemi intérieur. Derrière cette décision qui se dessine d'une prolongation de l'état d'urgence, on retrouve effectivement cette tension entre d'un côté une réalité qui est la menace djihadiste et terroriste, qui est une menace réelle. Il convient de souligner cette réalité-là. Il n'y a pas de construction discursive. Ce n'est pas un fantasme. Et puis de l'autre, le fait que ce régime particulier, qu'est l'état d'urgence, régime juridique particulier, en ce sens où il attribue la possibilité pour le pouvoir exécutif de restreindre la liberté de la presse et de restreindre aussi des libertés collectives, comme le droit de grève, qui pourrait
pour
être...
Pour l'instant, n'a pas été fait.
Exactement. Hein,
puisque la grève de novembre a eu lieu sans aucun problème et qu'on n'a pas argué de l'état d'urgence pour l'empêcher.
Parce que le pouvoir, pour l'instant, n'a toujours pas utilisé ce type de prérogative pour finalement restreindre les libertés collectives, qu'il s'agisse de la liberté de la presse ou de la liberté syndicale ou de réunion. Mais voilà, il y a ce spectre-là qui pèse un peu sur la transition démocratique qui se fait bon an mal an en Tunisie, dans un contexte d'état d'urgence, dans un contexte d'état d'urgence sécuritaire, mais aussi économique et social.
Alors, si je vous entends bien tous les deux, cette lutte contre le terrorisme n'est pas le moyen pour le gouvernement d'exercer un contrôle accru, on va dire, sur une population qui a des revendications.
Pas pour l'instant. Effectivement, elle a des revendications. Maintenant, ces revendications sont parfois instrumentalisées politiquement, évidemment, puisque on est dans une configuration politique aujourd'hui en Tunisie, mis à part dont nous allons reparler les vrais problèmes économiques et sociaux, mais dans une configuration politique de rivalité entre le chef du gouvernement et le président de la République, puisque le chef du gouvernement a argué de ses prérogatives constitutionnelles pour marginaliser depuis quelques mois le président de la République. Et donc, pour l'instant, et on va voir comment ça va se passer au niveau de la grève générale, eh bien, le président de la République joue la carte syndicale contre le chef du gouvernement. Donc, il a reçu ce matin le Nourdine Tabboubi, le dirigeant de l'UGTT, du syndicat. Et donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Cela dit, cette grève est une grève de la fonction publique. Ce n'est pas une grève générale de la fonction publique. Or, les principales revendications économiques et sociales, on dit que les principaux problèmes économiques et sociaux sont des problèmes qui dépassent très très largement le cadre de la fonction publique.
Alors je cite Abdel Razak Zorghi qui s'est immolé par le feu le 24 décembre dernier. Les promesses, écrit-il, n'ont été que des mensonges. Est-ce que ça veut dire que la révolution de Jasmin il y a 8 ans n'a pas amélioré la vie des gens?
D'abord,
je commence avec Belir Nabil.
Allez-y, je vous en prie.
Au-delà des promesses des responsables politiques actuels, ce sont les promesses de ceux qui ont incarné le soulèvement de 2011, qui ont d'une certaine manière dressé un agenda politique qui n'a pas été réalisé par les responsables de la transition démocratique. Mmh. Je veux dire par là que les revendications de 2011 demeurent toujours à l'ordre du jour. Et aucun responsable politique, aucun leader jusqu'à maintenant n'a réussi à traduire en acte, n'a réussi à répondre finalement à ces revendications-là. Et donc vous avez le mot d'ordre qui s'articule autour de la notion de l'idée de dignité, hein, qui s'articule à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan humain. Hein, qu'est-ce que vivre dans une société sans en avoir les moyens? Eh bien, ce mot d'ordre-là, il reste plus que jamais à l'heure du jour. C'est lui qui, finalement, anime la société tunisienne à l'échelle individuelle et collective, et qui fait qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le spectre d'un nouveau soulèvement n'est pas un fantasme. Oui. Il y a une série d'ingrédients qui seraient susceptibles d'aboutir à un nouveau soulèvement. Ce qui rend malgré tout l'hypothèse difficile à se concrétiser, c'est que au moins en 2010-2011, il y avait la perspective de renverser le régime et de glisser d'un régime autoritaire à tendance dictatoriale à un régime, pourquoi pas, démocratique.
Ça a été fait.
Voilà. On est dans ce processus. Sauf qu'aujourd'hui, si un nouveau soulèvement devait avoir lieu, de même échelle, on pourrait s'interroger sur, finalement,
les objectifs,
l'alternative à la situation actuelle. Quelle alternative sur le plan de l'ordre politique institutionnel, et quelle alternative d'un point de vue de l'incarnation? Qui pour incarner, finalement, les revendications de 2011 qui seraient réaffirmées aujourd'hui? Qui et quoi?
Alors, avant d'aborder ce problème, parce qu'il y a des élections bientôt, ça va donc être
dans près d'un an.
Vous pensez, vous aussi, Sophie Bessis, que les politiques n'ont pas su prendre en compte les revendications du peuple?
Avant de répondre à cette question, je crois qu'il faut bien comprendre qu'en 2011, la révolution, c'est-à-dire le renversement de la dictature de Ben Ali, a été faite départ des groupes sociaux totalement hétérogènes et qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs. C'est-à-dire que il y a eu en même temps une révolution sociale et une révolution politique. Les couches populaires et la Tunisie de l'intérieur marginalisée a cru que le changement de régime, que la chute de la dictature allait lui apporter un mieux-être social et que ses revendications, ses espérances, eh bien, allaient être réalisées du fait simplement de la chute de
la
dictature.
Ça n'a pas été le cas et pourquoi
non.
alors?
Alors, par ailleurs, une autre partie de la population, qu'on pourrait appeler les élites, bien que je n'aime pas trop ce terme très valise, sa priorité a d'abord été de changer l'ordre politique. Donc vous avez deux priorités qui ne se sont pas rencontrées. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Par ailleurs, il y a eu des tentatives de résolution partielle de la question sociale depuis 2011, mais qui ont été des tentatives de court terme et qui ont plutôt aggravé la situation plutôt que de l'améliorer. Je pense par exemple au recrutement massif dans la fonction publique. Il y a eu plus de 150, il y a eu environ 160 000 personnes de recrutées dans la fonction publique tunisienne. La Tunisie, c'est la Grèce. De ce côté-là. C'est la Grèce avant la crise. D'ailleurs, même population, 11 millions d'habitants à peu près, une fonction publique de plus de 600 000 agents. Et on a recruté en essayant de calmer les revendications, de calmer les colères. Ça n'a rien résolu. Parce que 160 000 recrutements, c'est très important pour le budget de l'État et c'est pas très important pour les revendications de la population. Et en revanche, et c'est là que je vais répondre à votre question, la classe politique actuelle en Tunisie n'a pas de vision. Elle gère le court terme. Elle n'a pas compris qu'il convenait de changer de paradigme économique pour résoudre la question sociale. Et il y a une autre chose de très important, cette question sociale grave ne peut pas être résolue en 6 mois, en 1 an ou en 2 ans. C'est impossible. Mais seulement personne n'ose le dire à la population. Personne n'ose dire, voilà, on a un plan. On sait qu'on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, la population, depuis 2011, se trouve en face d'une espèce de mutisme, d'autisme de la classe politique qui n'ose pas lui dire qu'on peut pas tout satisfaire en 6 mois, ce qu'elle croyait possible, et qui n'ose pas mettre en œuvre des mesures qui pourraient commencer à ressembler à une perspective de sortie du tunnel.
Oui, il y a effectivement cette question qui relève peut-être du courage politique. Mais pour dire vrai, au début de la transition démocratique, il y a eu un peu ce discours de voilà, nous avons pris acte de vos des revendications du peuple et nous allons tenter de les réaliser dans une échéance relativement courte.
Ce qui était impossible.
Ce qui était impossible. Donc le courage qui consiste à finalement inscrire une politique dans le long terme, c'est un courage qui manque, mais c'est en cela que finalement l'expérience tunisienne en dit beaucoup sur l'état des démocraties aussi. Et c'est ce qui m'intéresse peut-être le plus. Alors, finalement, sur l'expérience tunisienne. On a souvent parlé de la Tunisie comme laboratoire d'une hypothétique d'un hypothétique modèle démocratique pour le monde arabe et musulman, ce qui est naturellement un fantasme là aussi. Il n'empêche. L'expérience tunisienne et les crises ou les impasses dans lesquelles elle se trouve actuellement font écho finalement à la crise des démocraties contemporaines. Il y a effectivement la question de la capacité des politiques à finalement penser à long terme. C'est le court-termisme qui s'impose. C'est une logique gestionnaire aussi qui s'impose, réalisée souvent par une élite technocratique qu'on a plutôt promue au début, qu'on a même reconnu ses capacités justement à gérer l'État, à gérer les problèmes, et finalement avec un bilan extrêmement pauvre in fine. Vous avez également cette crise démocratique au sens de la crise de défiance des citoyens vis-à-vis du pouvoir politique qui se trouve incapable de réaliser finalement ou de répondre aux revendications. Vous avez là un cocktail finalement extrêmement, j'allais dire à la fois moderne et significative de la crise de la démocratie comme mode de gouvernement.
Alors on a envie de vous demander...
De la démocratie représentative, ajouterais-je.
Bien sûr.
Alors la question que je me pose moi, et je ne sais pas qui peut y répondre, peut-être Sophie Bessis, est-ce que cette crise économique et sociale peut mettre en péril la démocratie tunisienne ?
Toute crise économique et sociale peut mettre en péril la démocratie, ce n'est pas la peine de s'arrêter à la Tunisie, il n'y a qu'à voir aujourd'hui... les populismes qui fleurissent dans le monde dit démocratique. Donc on peut avoir effectivement une panne du processus démocratique du fait de cette crise économique et sociale, doublée donc de la panique sécuritaire dans la mesure où il y a certains nostalgiques d'un pouvoir fort qui disaient au moins sous la dictature, ils ne sont pas majoritaires, mais au moins sous la dictature on avait la sécurité et on avait la sécurité de l'emploi.
Donc manifestement cette révolution de jasmin...
Jasmin est un mot purement français.
Bon alors on l'emploie puisqu'on est
Personne
sur Radio France.
Personne ne l'emploie en Tunisie.
D'accord. Cette révolution de 2011 donc a manifestement généré de nombreuses déceptions. Est-ce qu'elle a produit des satisfactions ?
Oui, je crois profondément. C'est-à-dire que, bon, c'est toujours, vous savez, l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, bien sûr. Côté verre à moitié vide, il y a de quoi dire, et beaucoup, puisqu'on a parlé de cette panne de économique et sociale, et les indicateurs économiques et sociaux sont des indicateurs extrêmement préoccupants. Incontestablement.
Mais
n'oublions pas que depuis le 2011, la Tunisie a changé d'habitus politique. Et qu'il y a d'abord ce qu'elle n'a pas connu depuis l'indépendance et avant, bien entendu, c'est une liberté d'expression. Qui connaît des limites, mais enfin qui n'a rien à voir avec les deux régimes autoritaires qui se sont succédés depuis l'indépendance. Et vous avez il y a une nouvelle génération qui est en train de grandir dans ce nouvel habitus, qui a changé profondément de culture politique. Ça, c'est une chose très importante. Deuxième chose très importante, c'est en face de cette déliquescence de la classe politique, dévorée à la fois par le court-termisme, comme vous le disiez, par des égaux concurrents, par une corruption systémique gravissime, eh bien, vous avez une société civile et des mouvements associatifs qui sont d'une richesse incalculable et qui, là aussi, changent l'habitus politique de la Tunisie et la façon dont les Tunisiens et les Tunisiennes se regardent.
Alors, voyons si Mélina partage cet optimisme.
Ce n'est pas... Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. Je regarde.
Alors, voyons comment vous regardez-vous la situation, Mélina Nabli.
Non, c'est au-delà de jugement de ce diagnostic, il y a effectivement des indices objectifs qui tendent à finalement souligner les perspectives positives pour la Tunisie, notamment le fait que vous ayez à la fois un fort sentiment de désenchantement démocratique, à savoir que la démocratie n'est pas synonyme de satisfaction de l'amélioration de la condition sociale des individus. Mais ça, on le savait théoriquement. Les Tunisiens font l'expérience de cette dissonance. Et puis, de l'autre, vous avez, malgré tout, effectivement, le rejet du réflexe réactionnaire. Il n'y a pas d'appel à Ben Ali, certainement pas.
Il n'y a pas...
Vous avez affaire à l'expression d'une quelconque nostalgie par rapport à la stabilité d'antan, c'est presque dans une posture... de provocation, mais fondamentalement, vous n'avez pas cet appel d'air vers le passé, loin s'en faut. Donc, on regarde malgré tout vers le futur, avec angoisse, mais on regarde vers le futur sur la base des acquis du présent, notamment, effectivement, des acquis qui relèvent de ce qu'on appelle le libéralisme politique.
Allez, on en reste là, l'émission est terminée. On va voir ce qui se passe donc le 17, puisqu'il y a cette grande grève générale qui est demandée. On verra si l'état d'urgence est prolongé demain. Merci en tout cas à tous les deux. Je rappelle, Sophie Bessis, votre livre Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, c'est à paraître le mois prochain aux éditions Talendier. Et Belir Nabli, le vôtre s'appelle L'État, droit et politique, c'est chez Armand Collin. Merci également à Déborah Lepage qui a préparé cette émission, à Fabrice Viollet qui la réalise. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver bien évidemment sur notre site internet rfi.fr. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale, un nouveau journal dans quelques secondes.